Direct en jeu, la radio insolite, direction Poitiers, chez sa capitale, ouf, un grand bonhomme est né il y a quelques années. Bonjour Vincent, ça va bien la présentation comme ça, j'ai bien ouvert.
Bonjour Alain, je suis surpris, mais effectivement je suis bien né à Poitiers il y a déjà quelques années.
Oui, tu es comme moi, tu viens d'avoir 18 ans et quelques poussières.
Exactement.
C'est très important.
Voilà.
Qu'est-ce qui s'est passé? Déjà dans le ventre de ta maman, tu étais passionné de musique?
Ah, peut-être, oui. Je ne saurais te dire, mais en tout cas, la musique est venue assez rapidement dans ma vie, ouais, tout à fait. Des gamins, effectivement. Pratique assez régulière, assez assidue. Ouais.
Oui, parce que là, tu as été très sérieux, puisque tu es rentré carrément, je crois, dans une association qui est Jazz en Gâtine. Alors, ça a été tout de suite le jazz.
Ça a été très rapidement le jazz, ouais, tu fais bien de préciser ça parce que j'ai eu la chance de grandir dans une ville qui était une ville avec une activité associative très très importante et notamment des associations musicales organisatrices de saisons de concerts, de festivals. Et à l'époque, on va parler des années 90, cette ville partenait dans les Deux-Sèvres. Elle avait une association, Jazz en Gâtine, qui organisait un festival qui était à l'époque assez identifié, assez reconnu. Le festival Jazz au fil de l'eau, il a depuis disparu, mais il a marqué en fait à la fois ce territoire à cette époque-là, puis des générations de gamins comme moi qui ont participé à toutes ces activités, qui ont grandi, qui ont biberonné, j'ai envie de dire, à cette programmation de jazz, mais pas que, à toutes les actualités et à toutes les activités qui étaient organisées autour. Aujourd'hui, on appelle ça de l'action culturelle, mais j'ai eu la chance de bénéficier de rencontres avec de nombreux musiciens, de stages, etc., qui m'ont permis, moi qui étais tout jeune élève en clarinette à l'époque à l'école de musique de Parthenay, qui m'ont permis de m'intéresser très tôt à ce monde du jazz et de l'improvisation.
Alors en plus, comme tu te refuses rien, tu te dis, tiens, si je partais là-bas, et tu files à la Nouvelle-Orléans pour te faire une formation. C'est bien quand même.
Alors oui, ça c'est quelques années plus tard. Je joue dans un groupe que j'ai contribué à fonder avec des amis musiciens. Et on se retrouve effectivement dans une histoire un peu particulière, à nous retrouver à la Nouvelle-Orléans et à travailler la musique de la Nouvelle-Orléans. Voilà, c'était pour moi à ce moment-là un choc esthétique aussi en partie, mais pas qu'esthétique, vraiment culturel, j'ai envie de dire, parce que ça a été un moment pour moi où j'ai réussi à comprendre, j'ai envie de dire viscéralement, ce qu'était la chose culturelle. Voilà, quand vous avez des musiciens de jazz notamment, mais qui te disent, mais moi j'ai pas appris ce que je fais en fait, c'est ma vie, regarde ma fille qui est en train de danser sur cette musique là elle l'a pas appris, c'est de la transmission. On est au-delà de l'apprentissage, on est vraiment sur des notions là pour le coup très fortes de culture, quoi. Voilà. Et ça a été un véritable choc aussi pour moi, parce que ça m'a fait dire fait comprendre que mon amour pour le jazz faisait que, et ma culture à moi, mon trajet à moi, faisait que j'allais vraiment m'émanciper dans une pratique de cette musique qui ne pouvait être que la mienne. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire ne pas m'inventer un rapport à autre chose. Cette culture-là, il fallait évidemment que je puisse me l'approprier, mais en même temps, il fallait surtout que j'en fasse quelque chose de personnel.
En allant farfouiner sur Internet, j'ai aussi trouvé un mot qui revient souvent, c'est le mot émotion.
Ouais.
C'est quelque chose qui
te
paraît être une base importante comme manière de ce que tu fais.
Ouais. Ouais, je te remercie de parler de ça, parce que c'est vraiment quelque chose qui est très très important. L'émotion, la sensibilité de chacun, elle est vraiment exacerbée par l'émotion qui émane des œuvres, on va dire, de manière plus générale. Mais c'est ce que tu peux retrouver, voilà, c'est ces chocs émotionnels que tu peux avoir certaines fois devant des spectacles, devant des concerts, devant des œuvres d'art. Et là, il y a quelque chose qui est presque inracontable, en fait. C'est propre à chacun. Mmh. C'est comment chacun perçoit ça et comment derrière on est aussi capable de laisser aller sa sensibilité.
Oui.
Ça, c'est quelque chose qui est très important. Le spectacle, c'est forcément vecteur d'émotion. La musique, elle est forcément vecteur d'une émotion qui est propre à chacun. Et ouais, t'as raison, c'est quelque chose qui est fort. Voilà, que j'essaye vraiment de transmettre.
2021 sera une année inoubliable puisqu'on a eu les deux en même temps et sur Direct en jeu, on a relevé le défi puisqu'on avait le Festival de Cannes qui avait été décalé en plein mois de juillet et le Festival d'Avignon. Et toi, 10 ans avant, tu as été un peu d'avant-garde parce qu'en 2011, tu t'es lancé dans l'accompagnement musical de films muets avec un type pas très connu, Harold Lloyd.
Ouais, tout à fait.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Ouais, même avant ça, en fait, t'as raison, 2011, je vais revenir un peu sur ce spectacle avec Harold Lloyd, mais même avant ça, et ça fera un lien aussi avec peut-être le spectacle dont on parlera tout à l'heure, j'ai travaillé avec un compositeur qui s'appelle Bruno Régnier, et on est dans les années 2000, pendant quasiment 10 années, il avait plusieurs orchestres, dont notamment un qui était dédié vraiment à son écriture pour des musiques de films. Ça s'appelait le Ciné X-Tet. Et il avait fait plusieurs programmes, moi j'ai travaillé une dizaine d'années avec lui, sur ces différents programmes d'accompagnement de films muets, déjà à l'époque, on est dans les années 2000. C'est important de parler de ça parce que la forme ciné-concert, dont on parle aujourd'hui beaucoup, elle n'était pas encore extrêmement connue ou reconnue ou revenue au premier plan comme elle peut l'être un peu plus, on va dire, aujourd'hui. Et on avait travaillé sur de nombreux courts-métrages, de différents, mais pas que des courts-métrages, d'ailleurs aussi des longs-métrages. On a exploré le cinéma muet, notamment américain, avec Keaton, beaucoup, mais également des choses moins connues et un peu plus fantastiques comme Todd Browning, mais également des choses d'entertainment comme, je me rappelle d'un film sur lequel on a joué, qui était un long métrage avec Douglas Fairbanks, qui s'appelait La Marque de Zorro, qui était un peu entre un péplum et qui durait 2h30. C'était une véritable performance aussi que de jouer sur la totalité de ce film. Bref, ça a été quelque chose qui a fait partie d'une activité importante pour moi. Et puis à côté, je travaillais aussi beaucoup avec des compagnies de théâtre et notamment des compagnies, une compagnie de Commedia dell'arte. Et il y avait quelque chose pour moi qui était, en tant que musicien de scène, il y avait quelque chose pour moi qui faisait vraiment ce lien entre tout ça, le travail du masque, le travail du corps, les acteurs du cinéma muet qui étaient vraiment dans ce lien-là en permanence. Et effectivement, moi j'ai creusé ça après avoir aussi travaillé dans des spectacles et travaillé sur le travail du clown, pour le coup. Je me suis retrouvé à essayer de lier tout ça. Et en 2011, j'ai pu créer un spectacle qui s'appelait Les Tribulations d'Harold, comme tu en parlais, qui avait comme objet, certes, l'accompagnement de films muets d'Harold Lloyd, mais pas que, puisqu'on était sur une forme un peu hybride, où à un moment donné, notre bruiteur de scène se transformait en mime et sortait de l'écran pour incarner Harold Lloyd en réalité sur le plateau et continuer l'histoire des courts-métrages que l'on venait de quitter. Quoi. Voilà. C'était un spectacle qu'on a présenté, effectivement, au Festival d'Avignon en 2011 et 2012, 2012 et 2013, et je ne me rappelle plus précisément, et qui a eu un très beau succès, qu'on a réussi à tourner ensuite pendant plusieurs années. Voilà, ça c'était une belle expérience, et puis quelque chose qui était assez important pour moi, parce que la musique était originale, c'est une musique que j'avais écrite pour l'occasion, et puis il y avait un vrai travail de création et de relecture des films d'Harold Lloyd, quoi. Voilà.
D'accord. Alors tu remets ça cette année sur une seule date, le 16 juillet. Ok.
Sur deux dates, Alain, les 9 et 16 juillet.
Catastrophe, je me suis trompé. Inadmissible. Moi, ah oui, mais c'est normal, comme moi je viens le voir le 16 juillet, j'avais gardé la date du 16 juillet en tête. Qu'est-ce qui te donne envie cette fois-ci de passer sur Sherlock et autre histoire?
Eh bien, ça a été ces derniers temps l'envie de remonter une formation. Plus importante parce que évidemment aujourd'hui tu sais très bien que le secteur culturel a le vent en poupe, on est d'accord que les crédits sont foisonnants et que aujourd'hui de plus en plus on fait des grandes formes.
Vous n'arrêtez pas, c'est incroyable comme vous êtes riche, hein, franchement. Alors hein, ça va être encore pire dimanche soir, là je pense que vous allez être milliardaires tous.
Et en fait, un peu à contre-courant, puisque l'idée, on est aussi, il y a beaucoup de gens qui, et on le sait aussi, on sait pourquoi, hein, on développe des petites formes avec, voilà. Moi, je me suis dit, j'ai plutôt envie de continuer à défendre aussi, même l'histoire d'orchestre de jazz un peu plus conséquent. Et j'avais envie de remonter une forme avec, comme un medium band, voilà. C'est pas un big band, c'est pas un gros orchestre, mais c'est pas un trio non plus. On est 7 au plateau. On est 7 musiciens de jazz, musiciens improvisateurs, en même temps musiciens avec des cultures et des trajets complètement différents, pour interpréter une musique originale du compositeur dont je te parlais tout à l'heure, Bruno Régnier, avec qui j'ai travaillé donc il y a quelques années, et qui a accepté que je reprenne certaines des musiques qu'il avait composées pour des films de Buster Keaton, musique que j'ai réorchestrée légèrement ou complètement certains moments pour cette formation de base, ce septette de chambre, j'ai envie de dire septette de chambre parce que c'est un orchestre de jazz sans batterie. Donc on est sur une forme de jazz où l'on va aussi travailler comme un véritable orchestre de musique de chambre classique, quoi. Ouais, il y a vraiment aussi cette dimension-là sur un travail sur l'acoustique, un travail sur la précision instrumentale, etc., etc. Donc j'ai eu envie de remonter ça et de revenir à mes premiers amours pour le cinéma muet et pour l'accompagnement de films. Donc c'est pourquoi Sherlock Junior et autre histoire, parce qu'il y a le film Sherlock Junior plus d'autres histoires, est né il y a maintenant 2 années et qu'on a la chance de le présenter cette année pour deux exceptionnels au Théâtre de l'Adresse les 9 et 16 juillet prochains.
D'accord. Ça a été facile de choisir le film parce qu'il y en a quand même sacrément beaucoup, hein, de films.
Il y en a énormément, mais moi ce qui m'intéressait, c'était de... Là, on a deux films qui sont... Sherlock Junior, on va dire, il est souvent considéré comme vraiment un chef-d'œuvre, le chef-d'œuvre de Buster Keaton. On parle souvent de son long métrage, le plus court de ses longs métrages, puisque c'est une forme qui dure 44 minutes. Donc il y a vraiment un temps qui est plus long que le court métrage, on va dire, de 20-22 minutes, hein, puisque c'était les formats des bobines, en réalité, hein, les formats des courts métrages, si on se rappelle bien, c'était souvent des formats de bobines. Une bobine allait durer une vingtaine de minutes, hein, deux bobines allaient durer une quarantaine de minutes, et puis les longs métrages, on était sur des trois bobines. Bon, voilà. Et donc, tout le travail des réalisateurs à l'époque, c'était de réussir à raconter ces histoires en une, deux ou trois bobines. Et le deux bobines, ce format-là, là, de 44 minutes, il permet vraiment l'expression de Keaton dans sa quintessence, j'ai envie de dire. C'est-à-dire c'est 1924, le moment où sort ce film, c'est-à-dire il y a exactement 100 ans. Ça, c'était aussi un objet pour moi intéressant, c'était de rendre hommage à Keaton 100 ans après la sortie de son plus grand succès, on va dire. Et puis vraiment quelque chose qui est millimétré Keaton. En 1924, il a son personnage qui est complètement abouti. Il a une technique qui est complètement aboutie. D'ailleurs, dans ce film, il est à la fois l'acteur central, mais aussi le producteur et le réalisateur. Donc il y a vraiment quelque chose qui est très abouti. Je voulais aller sur cette proposition-là, et puis je voulais aussi faire la balance avec une autre proposition de 1921, The Playhouse, un autre court-métrage dans lequel Keaton est encore en train de faire des essais. Voilà, il est encore en train de travailler pas mal de choses dans son personnage, et en même temps, techniquement, on est sur les premiers exploits cinématographiques en réalité, hein, de post-production. Il y a notamment une scène dans The Playhouse qui est absolument incroyable, où Keaton, et c'est une scène qui est restée dans la mémoire et dans la conscience du cinéma, Keaton joue tous les personnages d'un orchestre et tous les personnages du public. Donc on est sur vraiment cette technique de surimpression de pellicule, et on se rend compte à quel point, à un moment où la post-production n'existait pas, à quel point techniquement c'était un véritable exploit, et artistiquement en tant que comédien, quelque chose d'assez incroyable. Voilà. Donc je voulais montrer ces différentes facettes, à la fois une facette très révolutionnaire au travers de Playhouse, et puis une facette complètement aboutie avec cette comédie romantique Sherlock Junior qui est vraiment une pure merveille.
Est-ce qu'on a une chance de te voir ailleurs? Parce que bon, le 9 et le 16 juillet, si je suis pas en Avignon, est-ce que je peux te récupérer dans un autre endroit?
Bien sûr, bien sûr. Ce ciné-concert, il est en tournée, hein. Alors effectivement, là, on profite de deux exceptionnels au Festival d'Avignon. En réalité, on profite bien sûr des 2 jours de relâche qui sont permis par les compagnies qui jouent tout le mois à Avignon. Nous, on a choisi de le montrer sur ces 2 jours-là, mais on est également en tournée à différents endroits. On sera également le 17 juillet aux Estivales de Russol, c'est dans le Minervois, dans le département de l'Aude. On sera également présent le 8 septembre au domaine du Bosc à Montady, dans l'Hérault, pour un festival qui est organisé par la communauté de communes de la Domitienne. On sera présent, ça c'est une date qui n'est pas encore annoncée, mais on sera présent au cinéma Le Kinépolis à Béziers fin septembre. Voilà, et on peut nous retrouver en tournée effectivement toute la saison prochaine, puisque ce ciné-concert reçoit un bel accueil des professionnels actuellement et on espère bien pouvoir le diffuser le plus possible.
Il y a un site internet où on peut retrouver, il y a peut-être une page Facebook aussi.
Il n'y a pas de page Facebook. Ça c'est voilà parce que on n'est pas fort sur les réseaux. Il y en a des gens qui savent très très bien faire, moi je sais moins bien faire. Par contre, il y a un site internet sherlockjunior-leciné-concert.art. Voilà.
D'accord. Art, ART.
ART, absolument.
D'accord. Ok. Donc là-dessus, on aura toutes les infos. Et puis surtout, je pense qu'on peut voir des photos. Peut-être qu'on peut entendre des sons.
Et vous pouvez entendre des sons sur ce. Voilà, il y a des teasers vidéo qui permettent quand même de se rendre compte de l'ambiance musicale qui est générée par cet orchestre, de l'esthétique de cette musique-là, qui est une musique de jazz, mais qui est une musique très écrite aussi, très improvisée par moments, et qui rend vraiment hommage à ce film, puisqu'elle est, millimétrée, en fait, en pop à l'image. C'était aussi ça, hein, l'intérêt de choisir cette musique de Bruno Reynier, c'est qu'il écrit une musique qui est toujours très très proche des films, au service de l'image et au service du découpage du scénario. Voilà, ça c'est vraiment un travail très spécifique de musique à l'image qu'on reproduit avec cette musique-là.
Si demain on te propose de faire la totalité du Festival d'Avignon, tu prends ?
Ah, si demain on a l'occasion effectivement de jouer sur le mois entier, ouais, tout à fait, je prends. Alors peut-être ce sera pas forcément avec cette formule-là, puisque j'ai aussi en préparation d'autres projets sur des courts-métrages, mais peut-être avec une formule un peu moins importante. Il faut pas se cacher aussi la réalité, hein, produire un mois à Avignon avec une équipe de 8 personnes, hein, parce qu'on est 7 personnes au plateau, mais on a également notre ingénieur du son qui nous suit. Donc on est 8 personnes en tournée, plus l'administration de la compagnie. Bon voilà, c'est quand même un budget très important aujourd'hui, et on aurait des difficultés, je pense, à le produire sur un mois complet à Avignon. Mais j'ai bon espoir de pouvoir présenter, j'espère l'année prochaine, la saison prochaine, un autre travail sur d'autres courts-métrages dans une formation différente. Voilà.
Tout à fait, non, mais là-dessus, bravo pour ton réalisme, c'est important. Il y en a qui s'imaginent qu'ils vont devenir multimilliardaires en Avignon. C'est pas toujours le cas, c'est même souvent pas le cas, mais c'est un endroit où c'est bien de se montrer parce qu'on peut rencontrer plein de gens. Je voulais te remercier d'avoir pris ces quelques minutes pour nous présenter tout cela. Donc, on rappelle le 9 et 16 juillet, c'est où? Comment est-ce qu'on fait pour réserver?
Le 9 et 16 juillet, c'est au Théâtre de l'Adresse, à Avignon. Vous avez effectivement la possibilité de réserver des places via l'application, hein, qui est très bien faite, du Festival Off d'Avignon. Ticket Off, je crois, Ticket Net, que vous trouverez ticket sur ticket l'application off. Du... Ticket Off, voilà, que vous trouverez sur l'application. Et en filtrant bien comme il faut les différents champs, vous allez tomber sur Sherlock Junior et Autre Histoire. Je vous rappelle, c'est le titre du ciné-concert, Théâtre de l'Adresse. Les 9 et 16 juillet, et ça joue à 19h. On vous y accueillera avec beaucoup, beaucoup de plaisir.
Super, bah écoute, merci à toi.